Salut salut et la bienvenue de nouveau dans cette année de Strip Sismique et on commence fort. Bast le virus, SARS-CoV-2, Bast la BD, Bast les grandes maisons d'édition et Ballast, voici le fanzine. Car on peut s'entregloser d'une année internationale de la BD, merci 2020, mais vu le nombre de productions de qualité, il y a un moment où on en a marre. Roman graphique, bonnes intentions, livre-objet. On va donc stripper la BD pour aller vers un monde de micro-éditions plurielles, d'éditions d'anti-fortune, le zine en bref. Le fanzine, c'est quoi? Par qui? Pourquoi? Bah voilà. On dit torchon, on dit feuille de chou, on dit truc vite fait avec les moyens du bord. Et pour qui? Pourquoi? Par des amateurs, souvent des non-pros, dessinant et écrivant hors normes. Sur quoi? Musique, donc concert, humour gras et humour grave, politique, écologie, violence, genre, cuisine et cuisine humaine de nos pensées et impensées. Le fanzine, c'est comme le deep web de l'édition BD. Peu détectable, toujours en mouvement, partageant des objets avec punch, voire poésie, gribouillage et texte hors normes, lieu d'expression critique et artistique non lucratif, lui, et donc sans contrainte d'assentiment vis-à-vis d'une quelconque hiérarchie. Mais le fanzine, c'est aussi un lieu où se déjoue le pouvoir. Alors on se réfère FISA, Fanzinorama, écrit par Marie Bourgoin. Le fanzine, c'est un lieu de tentative en matière de graphisme et de rédactionnel, faisant débuter son action là où la presse professionnelle arrête la sienne, s'appliquant à faire connaître des artistes débutants et méconnus, avec un faible pour ceux qui savent faire aucune concession aux normes en vigueur. Alors on peut dire aussi, avec elle, qu'il a toujours vécu sur un mode à la fois souterrain et rhizomatique, construisant ses réseaux, fédérant les amitiés, n'oubliant jamais d'être à la fois ludique et contestataire. Un truc bat, ouais. Parce que ça date, le zine, mais un truc vif. Vif, car le fanzine, c'est aussi un contexte de rencontre, souvent de décibels pour sa création, comme l'Enfer Festival de Nancy, ou un prix au Festival International de la BD à Angoulême, mais surtout une multitude ininterrompue de festoches et d'événements à travers la France, le monde, pour atterrir par exemple au Crack Festival de Rome. Alors, ce qu'on fait, pour nous et pour vous, c'est qu'on pousse la porte du zine, du fanzine et donc, mes braves, de la fanzinothèque. La Fanzino, c'est une institution sans en être une association qui est devenue une bibliothèque, qui est consacrée à cet art mineur, à ce parent pauvre de la BD, et sous la BD, ben le zine. Le fanzine donc, et avec Strip Sismique sous toutes ses coutures. On débute l'abordage par un entretien avec Marie Bourgoin, documentaliste de la Fanzino, clairement atteinte de fièvre zineuse, car un des piliers historiques de la Fanzino depuis 30 ans, et qui a sorti le livre Fanzinorama. On vous le conseille. Aussi, cet entretien a été fort généreux en parlotte, en temps, en dons, et on a dû le raccourcir, mais avec bon espoir de pouvoir vous le proposer ensuite en version longue podcast. Dans la continuité de l'entretien qu'on a mené avec Julia, l'Auguste Julia, justement, franchira le seuil de l'expo « L'enfer de la fanzinothèque » et s'attardera sur le profil franchement dérangeant d'un des auteurs présents de l'expo, Stumide. Ensuite, les comparses auront le plaisir de vous présenter des fanzines tous horizons afin de vous donner à sentir le vif irréférencieux des productions. Alors, on va crapahuter dans le monde du fanzine avec les chroniques de Camilla sur Logique de la Meute et Cano, puis de Michel Carton sur Carton, bien sûr, LBD 2020, tous et cool. On aborde donc la fanzinothèque, le fanzine et sa culture tout de suite à la Fanzino de Poitiers avec Marie, la documentaliste tutélaire, et une première question cruciale.
Comment on définit le fanzine? C'est une question très bateau, en même temps qui est complexe. Tu en donnes plusieurs définitions dedans, mais peut-être pour les auditeurs...
Ouais. Alors, c'est quand même compliqué, mais ce qu'on pourrait dire, même en reprenant tout simplement la définition du Larousse des années 80, qui n'a pas changé, c'est une publication amateur destinée à des fans, faite par des fans pour des fans. Mmh. Moi, j'aime bien fort, amateur au sens fort de non professionnel et de aimant, ayant une passion pour un objet, quoi. Et le fanzine s'est épanoui à une époque où ces objets culturels n'avaient pas de voix de cité. C'est beaucoup moins vrai maintenant, puisqu'avec les réseaux sociaux, on peut parler absolument de tout et n'importe quoi. Il n'y a plus ce poids du mainstream qui empêchait finalement, soit musicalement, soit graphiquement, de s'exprimer.
Enfin, le fanzine, finalement, reste confidentiel. Il a une légitimité aujourd'hui davantage grâce à certains libraires qui sont là, prêts à accueillir des zines et les mettre en valeur. Il y a bien sûr la micro-édition. Il y a beaucoup de micro-éditions.
Alors, on parlerait plus de micro-édition dans ce cas-là. Parce que le fanzine, malheureusement, ça reste un objet peu commercialisable. Physiquement, il est déjà mal foutu, hein. Il n'est pas épais, très dur à mettre en avant pour un éditeur. Et les libraires sont extrêmement frileux à prendre du vrai fanzine, hein, donc le fanzine encore en photocopie, par exemple. C'est pareil, les micro-éditeurs, mais enfin, on est même éditeurs indépendants, parce que l'association, c'est plus vraiment un micro. Ils vont avoir un impératif de vente. Donc ils vont demander aux auteurs, moi j'aurais une anecdote sur Guillaume Bouzard à ce niveau-là, ils vont demander aux auteurs d'avoir quand même un minimum de qualité. Ils vont pas sortir un truc tout pourri.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une narration? Ça veut dire
ça veut dire qu'ils vont avoir un regard. Oui, exactement. Ils vont, c'est-à-dire, c'est un directeur d'édition, il va dire, non, là c'est pas bien, c'est trop long, là raccourcis-moi ça, ou ton texte il est mal foutu. Il va y avoir un regard critique. Alors que quand tu es tout seul à éditer chez toi, enfin voilà, tu vas au photocopieur, tu édites. Après, tu auras des retours critiques de tes pairs, ça n'empêche pas. Mais pas d'autorité supérieure, tu vois. Et malgré tout, un éditeur, il faut qu'il vende. Ouais. Il ne peut pas s'amuser à faire des trucs dont personne ne veut. Ouais. Et il y a quand même, même s'il est très ouvert, il va être engagé dans des démarches de nouvelles bandes dessinées, dans de nouvelles narrations, ils amènent énormément de choses, mais ils vont avoir un regard quand même professionnel, critique, ils vont demander de la qualité. C'est impératif.
Ça veut pas dire que les fanzines sont dépourvues de qualité, ça veut dire que tu peux être plus libre, et puis tu parlais aussi dans le fanzinorama de l'origine du fanzine aussi très lié au concert punk, à des mouvements... artistique comme ça, contestataire, et donc c'est aussi des formats où il y a quelque chose de plus radical, peut-être plus politisé, ou une forme esthétique plus radicale, c'est notre définition que...
Do it yourself, enfin, dans le sens...
Alors, pas pour le bricolage, hein, parce que maintenant c'est ça, maintenant on entend beaucoup parler. C'est un mot. D'ailleurs, c'est rigolo, moi, quand je faisais des fanzines tout à fait au début, do it yourself, on ne connaissait pas ce mot-là, quoi. Nous, on disait la démerde.
Mais maintenant, de toute façon, ils disent DIY.
C'est encore plus nul. Je trouve ça encore plus naze. C'est de la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas vécue, et on ne peut pas dire des mots français et puis dire. Mais tout le monde s'est débrouillé. Tous les premiers fanzines ont été tirés en loose day chez ma mère et Claire de Notaire. Hop, photocopie en loose day, ça s'est toujours fait comme ça. Mais ça, c'est de la débrouille, ça. Pareil pour la diffusion, hein, parce que sur le problème, c'est-à-dire si la boulangère à côté elle est sympa, on prend des pots, enfin tu te débrouilles quoi. Ouais. Tu fais une kermesse pour récupérer un peu de blé, enfin il n'y a pas de règles. Mais maintenant le DIY, c'est comme maintenant, enfin parce que moi je suis un peu critique sur certaines choses, mais maintenant toutes les écoles d'art qui font du fanzine, ça me fait marrer. C'est pas du fanzine, c'est des exercices de style, c'est des exercices scolaires. Voilà. C'est pas du fanzine, c'est encadré. Allez, faites du fanzine. Un fanzine, c'est censé être une collection.
Ça veut dire...
C'est un magazine.
Donc il y a plusieurs.
Numéro 1, numéro 2, numéro 3, mensuel, trimestriel, aléatoire, parce que c'est quand même le genre le plus fréquent.
Ouais.
Mais
on pourra en reparler après.
Voilà, c'est censé être une série, quoi. Alors, ça vient de magazine, c'est mon magazine. C'est ça, on ne peut pas confondre un livre et un magazine, c'est quand même deux choses différentes.
Un fanzine qui aurait une thématique avec un auteur et qui serait unique, ce ne serait peut-être pas du fanzine.
Eh bien, c'est là que je dis que c'est trop systématique, ce que je dis. Parce qu'on a baladi, il y a plein d'auteurs qui font tout seuls leur fanzine, et c'est quand même des fanzines. Mais c'est extrêmement compliqué. Nous, une fois, j'aurais voulu définir le fanzine parce qu'il n'est pas. Et un Italien, un type qui avait monté une fanzinothèque en Italie, avait dit « Est fanzine, qui décide de l'être ?» Parce qu'autrefois, c'était clair. Hein, le fanzine, c'était photocopie noir et blanc, mal agrafée. Maintenant, c'est complètement faux. Avec toutes les techniques maintenant de reproduction... on ne peut plus se fier aux critères visuels comme ça ou de la qualité, hein, ça c'est complètement dépassé. Hein. Ou alors les écoles d'art ont tous les moyens et qui te pondent un truc tout pourri, exprès, pour faire style à des 80 et tout.
Vous nous parlez aussi des fanzines les plus éloignées justement de la photocopie noir et blanc, c'est-à-dire une forme particulière.
On pourrait parler du gravzine à ce moment-là.
Ouais.
C'est absolument ça, puisque gravzine, on est loin de la photocopie et de la graphe. Ça va être ce qu'on appelle des leporello, c'est-à-dire des accordéons graphiques. Ça va être des formats absolument hallucinants, avec des choses qui se déplient dans tous les sens, des reliefs, même des pop-up, enfin voilà. Et là on est aux antipodes du torchon. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 80, le fanzine s'appelait souvent un torchon, hein, ou une feuille de chou. C'était, ceux qui le faisaient n'avaient pas des masses de prétention, hein, même sur leur propre travail. Ils s'exprimaient, mais ils n'étaient pas en recherche de reconnaissance ni quoi que ce soit.
Enfin, fanzine's not dead. Enfin, je sais pas.
Alors, c'est vers 2004, la grande question ici que tout le monde venait nous poser, c'était arrivée d'Internet, c'est la fin du fanzine. Et effectivement, en 2004, entre 2004 et 2010, ça a été l'hécatombe chez les fanzines musicaux. Il y avait 400 titres à l'année, et on s'est retrouvé avec, je sais pas, 80, quoi.
Ouais.
Parce que clairement, parce que ça coûte cher le papier, finalement, Internet, tu peux toucher tout le monde, c'est gratuit. Pour un fanzine musical, c'est génial. Tu peux être réactif, c'est ça le problème aussi du fanzine, c'est qu'il prend 6 mois à sortir et les interviews, elles sont périmées. Tu peux pas réagir sur un concert.
C'est de la main à la main, c'est de la
main à la main. C'est quand même des contraintes. Et c'est des frustrations pour un fanzine. Ouais. De ne pas pouvoir. Moi, j'en ai fait du fanzine ces époques-là, quand ils sortent une interview au bout de 2 ans. C'est chiant. Ouais. Et puis sur Internet, tu peux rajouter une bande musicale. C'est quand même. Avant, dans le fanzine, on pouvait glisser une cassette, mais tu vois que c'est quand même bien plus compliqué, plus cher, plus compliqué à mettre en route. Donc les fanzines musicaux sont partis sur Internet, mais tous.
Ça aussi dans la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu, les cassettes.
Ouais.
Ça se fait beaucoup. Hein,
ça revient.
Ça revient, ouais, voilà.
Ça revient. Ah ouais.
Très à la mode.
Tu m'as parlé d'Adverse.
Moi j'adore cet éditeur. Il travaillait avant, on est dans le bénévolat plus qu'autre chose, mais il bossait avec Zeo Tsukuchi, qui est aussi une petite maison d'édition parisienne, qui fait quand même de la bande dessinée. Moi j'aime bien expérimental, ce qu'on appelle expérimental, c'est-à-dire qu'il vraiment, de toute façon, sort de la case, ça c'est bien évident, mais qui se pose vraiment des questions. Non seulement ils aiment la bande dessinée contemporaine vraiment innovante, en plus, ils se posent vraiment des questions sur ce qu'ils font, sur leur création, le sens de leur création, où ils vont. Je trouve ça génial, quoi. Ils sont hyper intello, moi, je trouve. Des fois, je décroche parce qu'ils vont trop loin dans le lièvre de Mars. Et les gens, je me dis, ils ont fait des études de philo, c'est pas possible, quoi. Ils se posent des questions sur leur pratique. C'est vachement intéressant, je trouve. Cet éditeur, il fait. On pourra aller voir, les bouquins sont magnifiques. Je pense qu'il se trouve à Paris, quand même. Mais il fait aussi bien des bouquins qui valent 50 euros, parce que c'est des très beaux ouvrages, vraiment très belles productions, que toute une série aussi de bouquins qui sont à 4 euros. Tu as vraiment cette envie de. Et toujours de très belles factures. Un soin sur la qualité. Ça existe depuis 2016, ils ont déjà, je crois, 40 bouquins à leur actif, quoi. C'est quand même avec des trucs extravagants. Je pense que là, en fait, scoop, c'est qu'après cette expo L'Enfer, la prochaine, ça sera juste l'expo des éditions adverses. Il y a deux personnes que j'adore, c'est Jean-Pierre Marquet, parce qu'on verra les bouquins, c'est sublime. C'est des espèces d'éphémérides, en fait, comme un calendrier où tous les jours, il va écrire un petit peu, quelques petites lignes qui lui passent sur la tête, sur son art, faire un petit dessin, coller un petit truc. Crayon, enfin c'est assez instinctif, c'est magnifique, pour moi c'est magnifique. Et Rosé Rappel, qui est une New-Yorkaise qui fait de la bande dessinée, c'est absolument fascinant. Elle va prendre des cartes typonymiques, et puis elle va retravailler dessus, découper le texte, découper des mots, leur redonner une nouvelle vie, ça m'a sauté aux yeux, quoi.
Ouais.
Je trouvais ça hyper excitant, de voir que finalement la bande dessinée est toujours aussi...
Bonjour.
Aussi intéressante, aussi novatrice, on n'est pas du tout au bout du truc, quoi. Il y a encore des gens qui percent les murs, enfin qui défoncent tout et qui t'ouvrent encore des espèces d'horizons, c'est génial.
Et si on revient sur le lieu, vraiment, la Fanzinothèque, comment, quand elle a été créée, comment ça s'est fait, et voilà.
Donc, c'est vrai, ça vient quand même, cette histoire de festival de la presse jeune à Poitiers, Scoop en Stock, où toute cette production de fanzines qui arrivait par carton entier, au bout de 3-4 festivals, la ville de Poitiers s'est dit qu'il faut un endroit pour les mettre. Il y avait un magasin en ville à Poitiers dans les années 80 qui s'appelait Fanzine et qui vendait de la bande dessinée. Il y avait un distributeur de Fanzine aussi, des gens très précurseurs, quoi, et puis en plus très dynamiques. Hein. Il y avait déjà l'association L'Oreille est tardie, qui gère maintenant le Confort moderne, existait depuis 78, comme des musiques innovantes. Enfin, il y a un vivier culturel à Poitiers, du fait que ce soit une ville universitaire, elle draine quand même tous les gens, au moins des 4 départements. Donc tout le temps, il y a un renouvellement de population, des idées, des jeunes dynamiques, et qui, vu que dans les années 80 et avant, il ne se passait quand même pas grand-chose, qui ont décidé, pour le coup, do it yourself, de monter des assos, de créer des magazines, de se bouger, quoi. Faire des groupes.
Mais justement, parce que là, du coup, la Fanzinothèque, qu'on soit clair, c'est une association.
C'est une association.
Voilà.
Par contre, elle est subventionnée par la ville de Poitiers depuis le début, puisqu'on dégage très peu de fonds propres, puisque c'est une bibliothèque, donc en clair, c'est plus du service public qu'autre chose, quoi. Et effectivement, la ville de Poitiers nous a laissé carte blanche. Après, nous, on n'a pas fait n'importe quoi non plus. Nous, on était, enfin, pas moi, mais donc mon ex-conjoint qui a monté la Fanzino, il était disquaire ici, dans cette couvre. Voilà, il était disquaire, il vendait des disques et des fanzines. Donc, on était quand même, on savait parfaitement ce qui se passait. On communiquait avec les fanzines du moment, donc on était quand même bien au courant de tout, quoi. Et la ville ne nous a pas embêtés là-dessus, quoi.
Et plutôt dans la mouvance punk ou
Plutôt, parce que c'est parce que c'était la mouvance punk à l'époque. Il y avait de la cool musique, métal existait évidemment, mais plutôt sur nos goûts musicaux, de toute façon. C'est-à-dire que notre proximité avec ces gens-là, nous, après, on se déplaçait en concert. On faisait une feuille d'info aussi qui s'appelait Arsenal Sommaire Poitiers, qui a duré donc 25 ans, qui annonçait tous les concerts de la région tous les mois. Feuille gratuite qui était envoyée partout. Donc on connaissait les assos culturels du coin, enfin musicales de toute la région. On se déplaçait, c'est des amis. Tous les mois, je prenais le téléphone et je passais une semaine.
Ah ouais, c'est un sacré
boulot. Téléphonais partout, je notais tout, puis tata.
Dans Fanzinorama, justement, tu parles de la langouste. C'est un fanzine qui était une newsletter, justement, sur l'actualité. Fanzine à l'époque, et avec aussi de petits événements, il y avait aussi tout ce qui était entendu, vu.
C'est rigolo. C'est pas que sur le graphisme, mais c'était sur ce qu'on appelle la culture underground de l'époque. Alors aussi bien, effectivement, les groupes punk de l'époque, c'est des gens extrêmement curieux et puis communiquent à fond, quoi, parce que c'était par courrier. Hein. C'est même pas, personne n'avait le téléphone à cette époque-là. Déjà des gens qui adorent communiquer et puis qui adorent chercher les infos et les retransmettre.
Il y a un groupe qui s'appelle Camera Silence.
Oui.
J'avais écouté ça et j'ai vu qu'ils avaient sorti...
Un bouquin, il est là, quelque part.
On peut estimer que c'est un fanzine, par exemple.
Ce livre-là,
c'est
un livre, mais fait par... C'est à peine une maison d'édition, quoi, Castor Astral. C'est presque... Oui, c'est... Garzello a fait des fanzines depuis 40 ans, et de ce milieu-là... connaît très très bien ce milieu, Et c'est quand même tous ces journalistes qui sont issus du fanzina, qui ont fait leurs premières armes là-dedans, n'ont jamais décroché en fait. Et après, ils sont venus journalistes souvent ou rock critique ou dans la presse locale ou dans certains médias qui ont vraiment une âme de journaliste.
Tu as l'impression que le fanzine est moins informationnel. Tu me parlais quand on s'était au téléphone, toute une diversité en fait du fanzine.
Le fanzine actuellement, s'il doit être informatif, il va creuser les sujets. Il va aller au-delà de ce que permettrait Internet par exemple. Après, l'information brute, c'est-à-dire date de concert, tout ça, c'est pas intéressant, le fanzine, pour ça.
Ça va vraiment être du reportage ou du documentaire ?
Ça va être du documentaire, du reportage, et sur des sujets que, à tort ou à raison, ces personnes-là vont estimer maltraités par les médias nationaux, par les médias traditionnels. Donc, actuellement, les mouvements queer, l'écologie, parce que, même si, c'est des choses dont on parle beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses à en dire. Et le mouvement queer, c'est aussi très très à la mode, mais il y a encore un paquet de boulot à faire là-dessus.
Mais l'underground, maintenant, peut-être qu'il est là dans les questions de genre.
Il est dans les questions de genre, il est dans les domaines refusés, qui sont encore souterrains, quoi, qui ne percent pas. C'est pas parce qu'il y a un article dans le Figaro de temps en temps là-dessus.
J'aurais pas cité ce journal, moi, mais...
D'abord, ce qui est vachement bien dans le fanzine, c'est aussi de parler par soi-même et de dire ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément une thèse. Les gens, c'est leur ressenti aussi. Donc ils vont creuser un sujet et dire comment ils vont trier cette info, la restituer à leur manière, quoi. Et ce que beaucoup de gens qui lisent des fanzines aiment dans le fanzina, c'est justement ce regard personnel, individualisé sur un sujet. Mmh. Et quand on aime bien, par exemple, la manière d'écrire d'un mec qui fait du fanzine, on va dire, ah oui, lui, j'ai confiance en ce qu'il raconte. Mmh. Et ça, c'était clair pour les fanzines musicaux il y a pas mal d'années, mmh. Quand tu sais que Best et Rock and Folk sont aux mains des labels, des majors, mmh. Tu fais pas forcément confiance à leurs chroniqueurs. Oui. Tu sais que, non, c'est pas... Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que... Alors qu'un fanzine... qui n'a aucun intérêt marchand derrière. Et si ce qu'il dit, ça te plaît, tu peux le suivre, tu dis « Ouais, ce mec-là, j'aime bien ce qu'il dit, je crois ses propos. » Voilà, tu vas adhérer à sa démarche. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de personnel, quoi. Ouais. Et le fanzine peut faire ça, parce qu'il n'a pas tous ses impératifs commerciaux. Il peut se planter aussi, évidemment, mais il peut être hyper grossier ou revenir en arrière sur des propos. Mmh. Il peut un peu tout s'autoriser. C'est une écriture singulière. La censure, on s'en fout complètement, quoi. Après, évidemment, si tu veux passer par un imprimeur, si tu veux grossir, ah ben là, maintenant, il faut faire un petit peu plus gaffe. Ouais. Mais si c'est le fanzine classique qui publie entre 50 et 100 exemplaires, ils sont contre-fous.
Au niveau de la censure de la fanzinothèque, justement, parce que là, donc il y a cette expo, l'enfer de la fanzinothèque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'enfer et tout l'intérêt de la...
Voilà, l'enfer, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus dans les bibliothèques, c'était la pièce où on enfermait les manuscrits contraires aux bonnes mœurs, on va dire. Alors aussi bien sûr, tout ce qui va concerner le sexe, mais je pense au Marquis de Sade, ses écrits politiques aussi, qui étaient contre la royauté, enfin voilà, tout ce qu'on ne peut pas montrer au grand public. Voilà, mais ça s'est arrêté dès le 19e siècle, l'enfer n'existe plus. Hein. Après, je ne suis pas sûre que les bibliothèques mettent vraiment tout à disposition des publics.
Est-ce que, je suis en train de me dire, est-ce qu'il pourrait y avoir une expo, le paradis de la fanzinothèque, avec des fanzines très très lisses, très politiquement correctes, un peu droit de cato, ou t'as jamais vu ça ici? C'est forcément contestataire et...
Oui.
Ouais.
Ouais. Oh, il y a des trucs très mignons, hein. Des fanzines de cuisine, par exemple. On en a plein, hein. Des trucs, on a des trucs très très mimi, mais très peu. Il faut bien l'avouer. Mais quand on vient à la fanzinothèque, on ne vient pas la belle aventure, on ne vient pas dans une librairie pour les enfants. Ce n'est pas une bibliothèque, hein, on n'est pas exhaustif, c'est une bibliothèque spécialisée. Ce public qui vient ici, celui qui peut être adulte avec de jeunes enfants, c'est des gens qui savent où ils vont, parce qu'on ne tombe pas dans le fanzine comme ça par hasard. C'est pas possible. C'est un objet qui est pratiquement introuvable, faut bien le dire. C'est introuvable, un fanzine. Dans les bibliothèques, il n'y en a pas.
Ouais. Dans le rare, quand même. À Paris, il y en a deux qui font ça. Je crois que c'est Sayur Sonar ou
Marguerite Duras. Marguerite Duras. Mais ils ont
Duras.
Eh ben, ils sont débarrassés de toute leur collection, elle est ici.
Ah
ils ont arrêté.
D'accord.
Et nous, on a récupéré une grosse partie de la collection. Elle a été dispatchée avec la bibliothèque musicale des Halles, qui a récupéré le fonds musical. La bibliothèque Fornet qui a récupéré beaucoup plus de cravesines.
Ah
bon, hein. Fornet, ok. Ouais. Et puis nous, on a récupéré le reste.
Mais même, même des cravesines qui piquent un peu parce que
pas Fornet, beaucoup.
C'est quand même,
Ben, ça, c'est plus tout ce qui était vraiment beau cravesines, je dirais, c'est parti plutôt à Fornet, hein, parce que c'est vraiment c'est leur vocation patrimoniale là-bas. Nous, on a récupéré plus du fanzine de photos. Ouais.
Radio balancé un bon vieux morceau de reggae. Le monde se refaisait à quelques pas d'ici. Des voix interrompues, ce que la radio diffusait. Le soir monté au loin, grondait tout un quartier. Odeur de cendre et de soleil, le ghetto brûle encore. Odeur de vie, de liberté, la foule dans la rue. Odeur de cendre et de soleil, le ghetto brûle encore. Odeur de vie, de liberté, la foule dans la rue. Régner le cri, on remplaçait les chants. La colère éclatait, les vitrines se brisaient. Soit pour nos crises sociales, la misère a refait surface. Soit pour nos crises raciales, la haine, hello, hello. Odeur de cendre et de soleil, le ghetto brûle encore. Odeur de vie, de liberté, la foule dans la rue. Odeur de cendre et de soleil, le ghetto brûle encore. Odeur de vie, de liberté, la foule a pris la rue. We'll be right back.
Odeur de cendre et de soleil, le ghetto brûle encore. Odeur de vie et liberté, la foule dans la rue. Odeur de cendre et de soleil, le ghetto brûle encore. Odeur de vie et liberté, la foule dans la rue.
Vous êtes le seul lieu qui réunit tous les fanzines comme ça en France, enfin beaucoup de fanzines en tout cas en France. Il y en a un en Belgique également, c'est ça?
Ouais,
et dans le reste du monde, est-ce que ça, c'est une pratique qui existe?
Alors, il y en a quand même d'autres. Il y en a d'autres en France. Il y en a une qui s'appelle le Fanzinarium à Paris,
d'accord,
hein, qui s'est ouverte il y a pile un an.
Ah ouais?
Ah oui, je crois que c'était le 17 septembre l'année dernière, il me semble. Le 17 l'immigration qui est dans. Oh, où est-ce qu'ils sont? 19e, je crois. Faut que je vous passerai, j'ai le petit papier sur le Fanzinarium.
Okay. C'est voilà. Le petit frère, alors?
C'est le petit frère ou la petite sœur. Oui. Ce sont des gens qu'on connaît depuis longtemps, qui ont en fait mis en commun leur collection perso, personnelle de fanzine.
Qui sont eux-mêmes dessinateurs ou...
Pas du tout. Qui sont des amateurs de fanzine. Okay. Je crois qu'ils avaient une collection 600 fanzines, mais je pense que beaucoup de Parisiens vont leur faire des dons, ils vont accroître cette collection. C'est ouvert deux jours par semaine ou deux soirées par semaine. C'est des gens qui font ça en bénévole. Voilà, et c'est vraiment amené à se développer. Il y en a, il y a des musicophages à Toulouse aussi. Donc il y a aussi un projet à Rouen de. C'est pareil, de petite fanzinothèque. C'est aussi un mec qui fait un fanzine et qui travaille dans une bibliothèque et qui s'intéresse à ça. C'est des choses qui vont monter. Après, nous ici, la chance qu'on a eue. Depuis le départ, c'est d'abord d'être salarié pour ça. D'avoir la subvention pour ça, parce que des fanzinothèques, il y en a eu d'autres qui se sont montées et qui n'ont pas survécu à, malheureusement, aux impératifs économiques. C'est des choses que tu fais quand tu es étudiant, tu as du temps, tu as un peu de fric, mais qu'ensuite, tu ne peux plus tenir, quoi. Et voilà, ces projets-là, ils ont tous capoté. Quelque part, c'est ici, c'est le seul endroit où vraiment il y a une subvention, et comme ça fait 30 ans. Je pense qu'on est un peu tranquille, quoi. Ça n'a jamais été remis en cause. Ce n'est pas une subvention démentielle non plus. Hein. On n'est pas non plus gourmand, justement, pour pas trop faire chier le monde et puis qu'on nous foute la paix. Quoi.
Et du coup, la piscine dehors, c'est pas.
Pas encore, non. Même pas un arbre. Même pas un mac cet été. Mais voilà, la chance inouïe que cette ville de Poitiers, tout de même, c'est quand même incroyable, quoi. Mais c'est une ville de gauche et qui a toujours misé sur la culture. Ouais. Sur la culture jeune et sur l'associatif. C'est une ville à Poitiers, alors bon, c'est peut-être un peu grossier aussi ce que je dis, mais qui a toujours favorisé le secteur associatif et qui a préféré donner des subventions à des centaines d'assos plutôt qu'un gros festival, à mettre un paquet de pognon sur un événement et laisser crever les autres assos. À Poitiers, il y a un tissu associatif dément, dans tout aussi bien en géologie, assos de géologie, en sport, tout ce que tu veux, en tricot, en broderie, et avec tous un petit peu de sous, selon ce qu'ils font, hein, leurs activités, mais c'est une volonté de la ville de Poitiers d'entretenir ce tissu associatif très fort. Quoi. Voilà. C'est particulier à Poitiers. Voilà, ça, c'est des volontés politiques ancrées depuis longtemps. Ça fait plus de 30-35 ans que la ville est passée à gauche. Là, elle est passée écolo, hein, maintenant, ouais. Avec une très jeune femme qui faisait des fanzines.
Ah oh.
Eh oui.
En fait, les jeunes, faites du fanzine, vous avez trouvé du travail dans le journalisme, dans la politique.
Mais parce que c'est pareil. Alors, elle en parle, elle en parle à la télé, elle a dit, je fais des fanzines. Ben parce que c'était le service jeunesse qui faisait des fanzines avec ceux qui étaient intéressés. Hein. J'ai oublié de dire un truc aussi, c'est que la fanzinothèque a été demandée par le premier conseil communal des jeunes en 1988, lors de leur premier mandat. Donc c'était une instance toute nouvelle hein, qui existe toujours.
Et un an plus tard
Et ils ont dit, on veut une fanzinothèque, et la ville a dit chiche. Et donc, la nouvelle mairesse de Poitiers est issue aussi de ce conseil communal des jeunes. C'est finalement former ces jeunes un peu à la citoyenneté. J'aime pas tous ces mots, je trouve un petit peu galvaudés, mais ben, bon, ça marche. Malgré tout, elle a fait du fanzine, elle le revendique.
J'étais étonnée, je ne savais pas du tout que ça avait eu lieu, à la première rencontre internationale de fanzinothèque.
C'était vachement bien, c'était donc pour les 20 ans de la fanzinothèque, donc ouais. C'était au mois de mai 2009.
Oui.
On a fait venir effectivement des fanzinothèques d'Espagne, Portugal, Angleterre, New York et Portland, puis Musicophage de Toulouse, Italie aussi.
Oui,
enfin non, ils sont pas venus à cette période-là, mais on était aussi en contact avec ces gens-là, ouais. En fait, il s'est avéré, c'était vachement bien, on a fait tout un colloque à la médiathèque de Poitiers, un truc hyper, avec des traducteurs, un truc waouh, voilà, on a quand même fait monter la sauce.
Ouais.
Pour confronter un peu déjà nos définitions du fanzine, nos actions, enfin voilà, nos fonctionnements, il y avait beaucoup de choses à voir. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on a des fonctionnements très divers, nos fanzinothèques étaient très diverses,
oui.
En fin de compte. Et on est la seule quasiment à être aussi transversale, c'est à accepter vraiment tous les genres de fanzine. On considère le papier, on considère le support. En Angleterre, je crois que c'est Collet Bridge, ou je ne sais plus comment elle s'appelait. C'est une fanzinothèque à destination, c'est une fanzinothèque sociale qui va aussi bien donner des cours d'alphabétisation, aider, voilà, tout un travail social dans des quartiers un peu difficiles, aider, je ne sais pas, à faire ses papiers administratifs, qui a vraiment toute cette grande dimension sociale très importante. À New York, c'est une bibliothèque universitaire dans l'université de je ne sais plus quoi, Barnard College, où la bibliothécaire va se... C'est concentré sur les fanzines faits par des femmes noires urbaines. Mmh. Voilà. À la BDTK du Portugal, elle est axée sur la bande dessinée. Je ne sais plus comment il s'appelait, l'anglais qui était venu, lui, c'était plus un festival de fanzines qu'il réalisait. Okay. En Italie, c'était un peu tous les styles aussi. Enfin voilà, pour dire qu'il y a autant de fanzinothèques que de fanzines, en fin de compte. Et ici, c'est pour ça que parfois, on est dans la mesure où on embrasse tous les domaines, on n'est pas toujours pertinent. On n'arrive pas à creuser toutes les pistes, quoi. Mmh. Sur la bande dessinée, on a du mal parce qu'il y a trop de choses. Mmh. Sur la politique, il y a trop de choses. Enfin, c'est dur à suivre tout ça, qu'on ait une petite équipe. Hein. Mais c'est que c'est un domaine qui est foisonnant. Et c'est que chaque fois que tu ouvres une porte, tu vois que derrière, il y en a encore 10 000, quoi. C'est sans fin, hein, parce qu'en fait, ça s'appelle bien pour ça dans le grand, mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup qui nous échappent, hein. Malgré tout. Parce qu'on ne peut pas être partout.
Oui, bien sûr.
Ouais. Mais bon, globalement, on a quand même... Moi, je pense qu'on a une vision globale bonne du fanzina, disons. Même si on n'est pas exhaustif. Mais ça serait pas, c'est pas possible d'être exhaustif. Ou alors, il faut qu'on ait des détectives dans toutes les villes. Tu vois, il faut qu'on soit à 500, quoi.
Ouais.
Oui, non, mais voilà. Il faut une armée. Il n'y a aucune façon de. Il n'y a aucun recensement du fanzina, c'est même nous qui le faisons. Voilà. Moi, quand je cherche des fois des infos sur un fanzine, je tombe sur mon site. J'ai bien avancé, tellement il y a peu d'infos. Donc, en fait, c'est les fanzines qui, grosse majorité, nous envoient spontanément leur exemplaire. On va peu, en fait, à la pêche. Sauf dans les festivals, où là, vraiment, les festivals, c'est l'endroit rêvé pour justement attraper plein de choses. Et des festivals, il y en a beaucoup, de micro-éditions. Là, ça, c'est assez à cause du confinement, mais à un moment, c'était un festival par semaine. C'est le délire, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous, c'est pareil, là, on ne peut pas tout le temps sur la route, quoi. Mais, et alors, après, on a des trucs rigolos aussi. On a des chasseurs de têtes, des chasseurs de fanzines. On en a un dans Nîmes, qui, je suppose, qu'il écume les villes grenier et qui nous ramène, qui nous envoie une fois par mois... une quinzaine de fanzines de toute époque, enfin tout ce qui chine en fait.
C'est génial.
Et qui alimente le fond alors, avec des trucs extraordinaires, des années 60, enfin toutes sortes de documents, qui lui-même fait une petite édition, ça s'appelle Roblo Cadeau, qui est vraiment minuscule mais qui a déjà 125 exemplaires. Ouais. C'est du A6, c'est tout petit, et voilà, qui se tient à ça, à publier tous les mois un auteur. un créateur, un dessinateur, un écrivain, petite production minuscule.
Parce que les formats, ici, il y en a énormément, mais c'est vraiment toujours l'idée du support papier. C'est fou, quoi. Enfin, j'en viens pas, en fait. Donc, désolée, je bug sur le papier.
Tout à l'heure, on s'est posé la question avec Grégor, avec qui je travaille, sur la documentation. Pendant le confinement, il y a eu pas mal de fanzines confinées. Entre autres, qui s'appelait Craquage, Six Sauteuses, et je ne sais plus comment, mais excellent. Et de Steve Laffre, très très beau, vraiment un truc magnifique, mais qu'on a qu'en forme numérique pour l'instant. Et on s'est tout à l'heure, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, Grégor, parce que ça, on peut, nous, ici, est-ce qu'on les imprime? Et avec Grégor, on s'est dit oui, on va les imprimer, parce que nous, comment est-ce qu'on peut montrer ces docs? Puis en plus, nous, on oublie qu'ils existent. Si on ne les a pas sous les yeux, on va les zapper, quoi. C'était aussi du support numérique à chacun de l'autre côté de faire son impression s'il le veut.
It was easy, it was cheap, go and do it.
Le papier.
Voilà.
Was treaty and the outlets were closed. The rats were biting cats again, and everyone was stopped. Just another sound adventure, just another commercial venture. School has led to scars, and we work just the same. Nothing ever changes except the things that we blame. It's a negative point of view, and I bet you've got it too. Don't have a nice amount in a London bank account, a pocket full of destiny, a panic-stricken ecstasy. Another generation, a general intimidation, pushing through the O-level crowd is allowed. It was easy, it was cheap, go and do it. Apathy and ill, but it's the same everywhere. Neutral into positive, it's something to share. The light has changed from red, and now it's green instead. Your brain is in a better condition than mine. I heard about your feelings on the old grapevine. You can eat industrial waste if you can stand the taste. Trying to focus the haze or the craze. It was easy, it was cheap, go and do it. I think I'm telling people that they're capable too. They don't want to believe me, and there ain't just a few. All are insecure, and I love telebus. Conscious popping consequences in the latest overweight. That endless rebel loud applause, the audience without a cause. Someone shouts at me, and I can't disagree. I don't need my A to Z, I got the street instead. I never pass the same way twice, I never take my own advice. If you can understand, go and join a band. All I can say to you, it was easy, it was cheap, go and do it.
Tu me disais, Nandi, que il y avait un paradoxe un petit peu dans le fait de faire des peu de tirages pour des événements ponctuels comme des concerts, etc. Et à la fois ici, ça a vocation à garder les fanzines de manière pérenne, quoi.
Tu veux dire conservation versus éphémère.
Exactement.
Alors oui, ça c'est très marrant parce que nous on pensait pas que ça marcherait la fanzine quand on a commencé.
Ils nous ont donné de l'argent, donc bon.
Non, c'est pas ça, mais nous on a contacté les fanzines en disant on a envoyé une feuille, un papier, par la poste, hein, de toute façon à l'époque, en présentant ce projet. Pour nous, le fanzine c'est quelque chose de très éphémère. C'était nos futurs. Mm. Et on pensait pas que les gens accrocheraient. On ne pensait pas que ça marcherait. Moi, j'en suis toujours parvenue. Je suis toujours très étonnée que ces gens qui font un truc qui ne vaut rien, qui n'est pas censé ni être un plan de carrière, ni même se développer, ni même continuer, qui est, ouais, c'est de l'ordre de l'instantanéité, voilà, de la pulsion. Eh bien, c'est incroyable, mais les gens... alors, le fait aussi que ça a été présenté, pas du tout avec le drapeau bleu, blanc, rouge, et de manière... aussi, on savait y faire avec les fanzines, puisqu'on était de ce milieu. Mmh. On a su aussi parler aux bonnes personnes avec le bon vocabulaire. Mais étonnamment, les gens ont hyper accroché. Et il y a des fanzines, des fois, qui nous recontactent, des gens, c'est des fanzines dans les années 80, qui n'ont plus leurs exemplaires. Ben, nous, on les a, on peut les rescanner, les redonner. Et c'est quand même une production qu'on fait avec cœur, avec âme, et on y est quand même attaché.
Ouais.
Et donc ici, savoir les gens, c'est une fierté pour eux de savoir que, ouais, il y a une trace, elle est là. Elle est là ad vitam aeternam, presque, on peut dire. Quoi. C'est quand même une fierté, c'est une sorte de reconnaissance. Et, voilà, c'est éphémère qui...
Parce que je crois qu'il n'y en a que quelques-uns qui sont à la BNF aussi.
Il y en a, parce qu'il y a même les petites annonces et tout ça.
Oui, tout à fait. Oui, la BNF, il y a les petites annonces, mais pour les fanzines, c'est un peu plus compliqué.
Et les fanzines, non.
Il y en a quelques-uns, je crois.
Il y en a, puis il y en a de plus en plus, parce qu'il y a plus C'est qu'avant, avant, dans les années 80, il fallait aussi passer par la préfecture, commission sur les publications jeunesse. Donc, et il faut savoir aussi qu'une publication de moins de 100 exemplaires, jusqu'à 99 exemplaires, on n'est pas obligé de faire une déclaration à la BNF, enfin au dépôt légal, à l'échappe au dépôt légal. Donc les fanzines ne passant pas par l'imprimerie, l'imprimeur, lui, est tenu d'envoyer au dépôt légal, à l'époque à la préfecture. Lui, il est obligé, hein, ça fait partie, c'est pour ça qu'il y avait des ours. Une fois qu'on est passé au photocopieur, qui n'a aucune obligation. Enfin, je ne vois pas comment la BNF pourrait tomber sur un document publié, je ne sais pas, dans les Deux-Sèvres à 25 exemplaires. Quoi. Mm-hmm. Par contre, rien n'empêche un fanzine d'envoyer sa publication au dépôt légal. Par contre, ils vont te demander un numéro d'ISSN. Eux, il faut bien qu'ils rentrent ça dans leur truc. Quoi. Et le fanzine, qui est vraiment, justement, par essence éphémère, ne se préoccupe pas du tout de ce genre de choses. Quoi. Ça vient plus tard, hein, éventuellement. Peut-être les plus vieux sont conservés, par contre. Ah, et c'est ensuite, à partir de l'arrivée du photocopieur au libre-service, que pendant 20-30 ans, voilà, ça s'est passé sous les radars. Avant, non, il fallait un imprimeur. Ou alors, moins de copistes, on recopie tout à la main. Ouais, il n'y avait pas le choix. Hein. Ouais. Avant le photocopieur, il n'y avait quasiment pas de solution. Quoi. Et donc là...
Mais quand même, le papier, demeure assez, c'est drôle, parce que bon, effectivement, on a tous ces moyens de diffusion, Internet, et bien sûr aussi le webzine, du coup, aussi pour informer un peu des actus. Mais le papier, c'est vraiment un lieu de... c'est un support assez, un peu plus contestataire. Il est resté là.
Il est resté là, alors tu vois, il a disparu vers 2004-2006. Ouais. Bon, tout le monde a fait du webzine. Ouais. Au bout d'un moment, ces gens qui venaient quand même du papier ont été quand même un petit peu frustrés parce que t'as rien au bout des mains. Ouais. T'as rien, quoi. T'as rien à échanger. Enfin, t'échanges, va voir mon site internet, va voir mon HTTP, c'est quand même pas très funky. Ouais. Et ce besoin quand même de retourner au papier. Et puis aussi, il y a beaucoup de ces gens qui faisaient du webzine, qui font aussi du fanzine, qui sont revenus au papier pour contrer cet aspect délétère d'Internet où c'est un flux continu, on n'arrête rien, puis ça disparaît aussi. Mm. Hein, les sites disparaissent. Alors que le papier, il est figé dans le temps et c'est une trace historique. Quand nos vieux zines, on sait qu'on voit les agrafes rouillées, il y a des typos, enfin il y a plein de choses qui se renseignent sur une époque, ça fiche dans le temps, puis c'est un objet. Il est fini. Donc les gens, en fait, les fanzineux utilisent les deux supports. Hein. Ouais. Mais bon, je pense à un type Saminasti, il le fait un peu moins là, c'est ainsi, il ne doit pas avoir le temps, mais il va une fois par an inscrire dans le marbre sa production d'année. Il va faire un best-of papier. Il fait énormément de chroniques, de cinéma, de musique, de tas de choses. Parce que amoureux du papier, malgré tout. Quoi. Et toujours cet aspect, parce qu'on est quand même des êtres de chair et de sang et que c'est trop désincarné l'Internet. Vachement bien pour l'info, hein. Mais on ne peut pas les opposer. C'est des médias complémentaires. Hein. Au début, c'était ça. On imaginait l'un contre l'autre. Et c'est pareil pour la presse écrite. Il y a quand même encore des magazines qui se créent.
Mama. Après l'interview avec Marie de la Fanzinothèque, nous sommes allés en enfer. L'enfer, c'est la section d'une bibliothèque où sont gardés les livres interdits au public. Enfin, c'était. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'ouvrages inaccessibles aux yeux innocents. Historiquement, l'enfer apparaît vraisemblablement dans les monastères du Moyen-Âge. J'espère que vous appréciez le paradoxe, autant que moi. En fait, l'enfer, c'est l'endroit où les religieux gardaient les ouvrages contraires aux bonnes mœurs, voire les écrits hérétiques, avant qu'ils ne soient purifiés, le plus souvent par le feu, dans de grands autodafés chrétiens. C'est une pratique qui s'officialise durant l'Inquisition, mais cette fois la purification est symbolique. Les autorités religieuses mettent les ouvrages obscènes et blasphématoires littéralement à l'index des bibliothèques, ou, suivant la formule consacrée, Index Librorum Prohibitorum. Pourtant, un bon nombre de ces ouvrages immoraux semblent nous être parvenus. L'enfer perdure, mais n'est jamais tout à fait le même. À la Renaissance, les bourgeois conservent les livres humanistes, qui sont aussi érotiques, dans des cabinets de curiosité. Le 19e siècle, appelé littéralement l'âge d'or de l'enfer par Pascal Piat, voit proliférer ce type de collection de curiosités. L'enfer désigne même l'armoire dans laquelle on enfermait les ouvrages interdits au grand public. C'est ensuite Napoléon Bonaparte qui institutionnalise l'enfer en rationalisant le contrôle des publications contraires à la morale. Là, nous sommes dans un enfer à la Brésil, c'est le début de la bureaucratisation de la censure. Aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a plus vraiment d'ouvrages inaccessibles aux yeux des innocents, ou alors plus assez de yeux innocents pour être choqués par l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'enfer de la fanzinothèque ? Comment trouver la perle infernale parmi tous les fanzines crapuleux qui existent ? J'avais l'embarras du choix en parcourant l'exposition, mais je me suis arrêté devant une peinture qui m'a frappé par son esthétique à la fois naïve et tout droit sortie des tableaux classiques dépeignant l'enfer de Dante. J'ai donc choisi pour vous le fanzine du même peintre, Stu Mead. Ce fanzine s'appelle Devil's Milk, le lait du diable, un titre qui annonce une œuvre infernale. Pour vous le décrire, le fanzine, c'est un format A5. Sur la couverture jaunie, on voit une fillette avec des ailes de papillon, accroupie sur un nuage, et qui fait pipi sur le titre.
De la fanzinothèque, on passe à son enfer, et un des artistes présentés,
des films grand public des années 70.
Avec Julia, cette fois comme
pendant la quarantaine de pages qu'on porte
Julia,
le fanzine,
de
Stu Mead va utiliser
souffle.
Des techniques et des styles variés. Gros plan en trame au stylo rouge, une technique qui a fait le succès de la BD « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Portrait en pied d'une femme à la ligne claire et en trois couleurs. Même portrait reproduit à la peinture cette fois, avec une palette plus variée et réaliste. Scène en noir et blanc, soit à l'encre, soit à la peinture sèche, qui laisse apparaître le canevas. Stu Mead décline et mélange deux grandes catégories de personnages. Les représentations démoniaques et les jeunes femmes, voire les fillettes. Les scènes sont souvent de nature sexuelle. Il y a de la pédophilie, de la scatophilie et de la zoophilie. Au sens classique comme moderne, Stu Mead semble donc avoir sa place dans l'enfer des bibliothèques religieuses. Mais quand on y regarde de plus près, il dépeint surtout des allégories de l'innocence dévoyées par une autorité. Une page montre un prêtre qui donne érotiquement des hosties à ses ouailles. Une autre, Ronald McDonald, qui rentre dans la chambre d'une jeune fille. Ou encore une autre, un policier exhibant son sexe. D'autres scènes s'inspirent d'œuvres archétypales. Une enfant endormie, entourée de trois cygnes, évoque ainsi le mythe de Zeus et de Léda. Deux femmes sur une tombe sur laquelle est inscrit « Cobra Killer » en lettres de sang, parodie les affiches de films d'horreur des années 80. L'ensemble du fanzine se compose d'un style naïf, mêlé aux références classiques, qui donne un sentiment étrange de familiarité et de détournement. Les représentations de l'enfer sont comparables aux tableaux dantesques du début XXe. Les jeunes filles évoquent les danseuses de Degas et les jeunes femmes sont inspirées des pin-up des années 50 comme des femmes fatales des comics plus contemporains. Alors on a décrit les œuvres de Stu Mead comme de la peinture de jeunes filles en train de découvrir leur pouvoir. Il faut comprendre par là principalement l'excitation sexuelle dont elles pourraient faire l'objet. C'est une critique qui ignore volontairement complètement le problème moral de la pédophilie qu'elle dépeigne. Moi, je ne crois pas qu'on puisse séparer l'homme de l'artiste, ni que l'art soit déconnecté de toute valeur morale. Je suis ravie que les vrais pédophiles soient démasqués, qu'ils soient boulangers ou réalisateurs de films. Et on ne peut pas non plus ignorer qu'une partie du travail de Stu Mead a été censurée lors des rares expositions dont il a fait l'objet, notamment en Californie. Mais je ne crois pas que le travail de Stu Mead soit fondamentalement érotique. Au contraire, pour moi, c'est l'expression de l'enfer parce qu'il dépeint des archétypes sexuels sous-jacents au désir dit normal. Le féminin dépeint en petite fille, le masculin en démon ou en animal. Je n'y vois évidemment rien d'excitant, je trouve au contraire que les sujets de son travail questionnent et mettent mal à l'aise, et je pense que ça fait partie de son objectif. Dans une interview, Stu Mead défend le fait de s'identifier autant aux fillettes qu'aux garçons de ses peintures, ainsi qu'aux chevaux, aux vaches et aux chiens. Il précise quand même que les hommes lui ressemblent, souvent, et que s'il est handicapé, il se définit bien comme un homme, qui n'est pas en dehors des catégories de genre, qui n'est pas en transition. Il se définit comme un artiste, avec une imagination pervertie, qui essaye de faire de bonnes peintures. Sur l'ensemble, il y a en tout cas plus d'une vingtaine de scènes où les jeunes filles ou les jeunes femmes fixent le lecteur. Typiquement, le malaise vient du fait que les fillettes ont quelque chose d'adulte. Les yeux fatigués, la sexualité bien sûr, mais surtout elles semblent mettre en accusation celui ou celle qui regarde le fanzine. Un des exemples les plus frappants est une scène de bar où un démon exhibe son sexe. Au premier plan, ignorant totalement ce qui se passe derrière elle, il y a une petite fille en train de fumer et qui fixe le lecteur. Voilà donc de la manière... Donc Chris Campion, qui est en introduction du fanzine, le décrit. Je pense que c'est un travail plus intéressant que la simple provocation qu'il montre et que ça mérite de s'y intéresser.
Je t'attirais par les titres en choisissant ces fanzines. La logique de la meute, texte et dessin de Mathieu Flammarion. Ces titres faisaient écho pour moi avec Masse et pouvoir d'Elias Canetti. Ici, effectivement, on parle des masses, ou plutôt, des différents types de masses. La masse des CRS, en train de frapper des manifestants, la masse invisible des zadistes, et la masse des indifférents, qui ne s'opposent pas, au contraire, au nouveau projet des constructions de messieurs les barons. Les Rural City, un village de vacances de 6000 places, avec villas, centres commerciaux et dômes tropicales, alimentés par des éoliennes. Parmi ces masses se promènent les flics Jean-Marc, l'improbable protagoniste de ces fanzines. Il revient dans son village maternel et se retrouve au beau milieu du conflit. Ses anciens amis semblent assez inquiets de la situation. Je ne peux pas vous révéler la suite de l'histoire parce que la logique de la meute est divisée en 10 épisodes et j'ai eu accès seulement aux premiers 3. Mais n'hésitez pas à faire un petit tour sur les sites de Mathieu Flammarion ou à la fanzinothèque pour avoir accès au reste de l'histoire. D'un point de vue technique, ces fanzines trimestrielles sont imprimées en risographie. Les traits sont simples, vifs, violents. Et ses traits deviennent plus poétiques par moments, plus granuleux. C'est assez joli. La couverture, j'ai trouvé les couvertures impressionnantes, en particulier celle du premier numéro. C'est une couverture bichromatique avec un premier plan, un CRS, avec un regard bête, comme celui d'un chien perdu. Je trouvais ça très touchant. Après, pour conclure, 2 mots sur l'auteur, Mathieu Flammarion, que je ne connaissais pas. C'est un artiste installé à Paris. Après avoir fait des études en Belgique, il fait pas mal de peintures. Vous pouvez tout voir sur son site.
Merci beaucoup, Julia. Et maintenant, salut Camilla. Nous t'écoutons pour d'autres fanzines, Logique de la meute et Cano.
Donc, il me reste encore quelques secondes pour parler d'un deuxième fanzine, Cano. Donc, ces fanzines, je les trouvais hyper beau à partir de la couverture. Il y a un aspect des glandes complètement assumé. C'est très dense. Il semble y avoir plusieurs histoires, des changements d'histoire caractérisés par un changement aussi des couleurs. Je ne peux pas vous dire plus sur les histoires parce que ces fanzines sont en anglais et en espagnol et je ne maîtrise pas du tout ces langues. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour pour retrouver ces beaux fanzines.
Merci Camilla. Et maintenant, salut Michel. Qu'as-tu à nous dire sur les zines LBD 2020, Tous et Cool et Carton ?
Bonjour, bonjour. Alors, pour ma part, moi, je, Michel Carton, en pleine crise égocentrique, j'ai jeté mon dévolu sur un fanzine qui s'appelle, comme moi, Carton, mais avec un K. Carton est un fanzine que vous pouvez trouver en version papier ou lire sur le web. Le premier numéro est sorti en décembre 2019. Carton en version papier, c'est une 60aine de pages en français et en anglais, en noir et blanc, dont la raison d'être est de vous faire partager des découvertes culturelles alternatives, qui sont souvent musicales, mais pas seulement. L'idée importante, c'est de montrer des choses que vous ne verrez jamais dans les médias qui ont pignon sur rue, les médias dominants. Pour cela, les auteurs et autrices, qui semblent être des Français, des Françaises et des Grecs basés à Toulouse, se baladent un peu partout en Afrique du Nord et en Europe, visite des squats, des structures alternatives, des festivals do it yourself, des manifs, etc. Alors comme type de fanzine, rien de très nouveau, vous me direz. Mais l'intérêt principal de celui-ci est qu'il est vraiment bien fait. Il y a vraiment une grande quantité de travail, des interviews de musiciens intéressantes, une belle mise en page, des belles photos, des beaux dessins qui agrémentent de nombreux articles. Bien sûr, on reste dans l'esthétique fanzine punk, c'est très sélectif politiquement, mais ça n'empêche pas la qualité. Vous l'avez dans les mains, vous commencez à le lire et vous continuez. De fait, ils vous donnent envie d'aller écouter les groupes qu'ils interviewent. Ils font aussi des enquêtes peu communes. Le dernier numéro est par exemple dédié à la scène alternative à Casablanca, où l'équipe est allée et nous fait découvrir des festivals de musique marocains, plutôt importants comme El Boulevard ou Art Zazat. J'ai découvert avec eux ce groupe punk marocain Zohar ZWM, qui est maintenant à Toulouse, à vous le voir. Dans des numéros précédents, il y avait aussi des interviews d'activistes comme ces aigris punk qui ont fait fermer un poulailler industriel en Italie, ou aussi un dessinateur d'affiches et de BD de la scène punk parisienne, Jo Coco, pour ceux qui connaissent, ou encore ils dépeignent des zones urbaines en pleine misère, comme par exemple Baba Belwa dans l'Algérie, ou encore dans les Vélés di Scampia à Naples. Enfin, il y a l'oncle Toto, un soi-disant ex-banquier, qui tient une rubrique sur ses aventures déjantées. Je me suis déjà trouvé une rubrique marrante, ce sont ces photos de graphes politiques à la fin de chaque numéro. Il faut dire que ces dernières années, ces graphes sont de plus en plus classe, on se croirait en 68. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Nous sommes un peuple de casseurs-cueilleurs, gilet au bout de mes rêves, avril, le régime ne tient qu'à un fil, déclarez vos impôts, on déclarera nos manifs, plutôt sorcière que policière, lancez Martinez sur les flics, fièvre jaune, ambiance tropicale, ni côte de bœuf, ni botte de keuf, Jean-Claude Vandal. Tout ça, c'est vraiment sympa. Je vous conseille donc d'aller visiter leur site sur www.carton-zine.com où vous trouverez le fanzine découpé en rubriques avec en plus des vidéos des groupes de musique qu'ils ont découverts et des interviews diverses.
Merci les amis pour vos chroniques. Elles étaient donc sur l'expo de la Fanzino, l'enfer de la Fanzinotech, les fanzines Devil's Meek, Political Comics et Zinmania, Logique de la Meute et Cano, puis Carton, LBD 2020 et Tout c'est cool. Quel travail! Nous voici donc à la fin de l'émission. Vous l'aurez compris, venez vous intriguer à l'ombre du fanzine. Créez, donnez et recevez à la Fanzino. Vous trouverez des quantités ahurissantes de formats, de pattes graphiques et de contenu. Bien sûr, déplacez-vous, mais sachez que la Fanzino, c'est aussi la numérisation et l'envoi de fanzines à la demande, juste en vadrouillant sur Internet. Vous y trouverez des ateliers en tout mauvais genre ou genre joli. Vous pouvez y faire imprimer, voire vous former, et par qui? Eh bien par des gens passionnés de technique, de formes vives et non codifiées. C'est donc un lieu d'expo, de rencontres, de verres et de sons en lien avec le confort moderne, et pour ça, il suffit de traverser la cour ou de ziner. Pour ceux qui auraient des velléités, la Fanzino, c'est aussi notre data center, sauvegardant les zines des créateurs et créatures qui les auraient perdus en chemin de vadrouille. Envoyez vos fanzines. Retrouvez donc le podcast et les références en ligne. À plus pour la prochaine émission sur le festival Bula. Le fanzine est mort, vive le fanzine.